C'est jet ou c'est rien. À quelle heure? Quand?
Bergerus 1018, le scénario de l'éternité. On écoute Philippe Glass. Alors avant de commencer tout ça, je vais vous faire un aveu. La Bergerus est sur écoute. Helmut, Johnny, Schmidbly sont tous écoutés. / hors paranoïa. Voilà. Donc le scénario juif et protestant hollywoodien. Construit le début et la fin de l'existence. Construit. C'est-à-dire, on part de rien, puis rêve américain, donc événement inhabituel, extraordinaire, puis chute. L'immobilisation du temps. Le cinéma coréen illustre très très bien les influences du cinéma américain, mieux qu'aucune autre. Qu'aucune autre nation, du moins l'objectif de l'immobilisation où rien ne se produit. Les tendances du cinéma hollywoodien impactent, orchestrent la vie humaine. Le scénario du happy end est illusion. Le scénario où l'évolution du temps ne joue aucun rôle dans les phénomènes est illusion. Le plan nouménal, donc dans le présent, vraiment l'inverse du phénomène, on pourrait dire. Le plan nouménal, pas l'inverse, mais une autre direction, quoi. Le plan nouménal, où j'agis comme bon me semble, pour mon bien, sans ne réfléchir, ou alors penser aux conséquences, finalités, pouvant se répercuter sur l'autre, ça c'est nouménal, s'empare du monde. Et j'ai lu récemment dans le journal que les Chinois se protestantisent. Bon, je l'ai lu, après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, j'en sais rien, mais ça me paraît tout à fait probable. Alors, je n'ai malheureusement pas la bande originale de Jurassic Park, mais je vais vous donner un exemple quand même. Exemple, donc, lorsque le professeur Grant... Dans Jurassic Park, le number one, hein, celui de 93, je ne sais plus quand il est sorti. Professeur Grant, dans Jurassic Park, hein, à la deux tiers du film, quasiment à la fin même, ou trois quarts, il lance une branche d'arbre sur les fils. Et alors ça concerne le scénario de l'éternité. Ok, même aussi ça concerne les tendances du cinéma hollywoodien, impact, orchestre à la vie humaine. Alors le professeur Grant lance... une branche d'arbre sur les fils électriques pour savoir s'ils sont alimentés. Alors on sait depuis le début du film que lui, il n'est pas très moderne, ça lui joue toujours des mauvais tours. On sait aussi, si on a bien regardé, avant il a regardé si c'était alimenté. Bon, on sait ça. Bon bref, il balance, il est avec deux enfants, et il balance, ce que Spielberg aime beaucoup, c'est les enfants, il lance un bout de bois et là il voit qu'il n'y a pas de jus. Alors, d'une, les câbles, bah, si le professeur Hammond, le gros richou qui fait le parc, je sais pas, bon, il a au moins isolé les câbles, quoi. Surtout s'il veut en faire un parc d'attractions. Donc ça me semble... C'est honnête, quoi. Mais bon, même s'il ne l'a pas fait, il n'en est venu dans aucun instant dans le film, il y a deux, le bois, c'est ça qui est dingue, c'est, n'est pas un matériau conducteur. Donc l'électricité ne peut pas passer. Mais bon, comme on l'a vu, Grant a regardé avant s'il y avait du jus. En gros, il l'a fait exprès. Mais encore, ça faut le savoir. Pour les jeunes, pour les enfants, les jeunes enfants, j'entends. En traduit, il y en a peut-être qui l'ignorent, mais c'est une vérité, quoi. C'est physique. Donc, la confiance de Grant pour cette action, qui regarde l'alimentation avant, qui est éteinte, le met en confiance, mais bon, c'est pas vu que tout a disjoncté, c'est possible aussi qu'il y ait du jus, quoi. C'est Hollywood aussi, donc bon. Et d'ailleurs, il essaye, et puis il se fait électrocuter, et puis, tu sais, tout le monde y croit, et en fait, non, c'était une blague, bon. Donc, la fin de cette scène, lorsque Timmy, qui est un enfant, un petit garçon, serre les câbles, il essaie de passer de l'autre côté en escaladant par les câbles, de l'autre côté de la barrière, en fait. Et il se trouve, à la fin, en fait, le jour vient et il y a la sirène tin, qui revient, ça prévient que le courant va revenir. Donc, c'est des courants à 20 000 volts, hein, au moins. Donc, ils sont subitement alimentés, les câbles, et lui, il se retrouve catapulté en arrière, alors que quand tu te prends de l'électricité dans le corps, tes muscles, ils se raidissent, ils se crispent sous l'électricité. Donc, en fait, tu restes accroché, quoi. Surtout quand tu serres des câbles, tu restes accroché, quoi. C'est comme quand tu fais des travaux chez toi, il faut mieux que tu mettes le dos de ta main, quoi, quand tu coupes pas le courant. Bon, bref, il se fait électrocuter. Donc, tout ça, c'est faux, quoi. C'est pas physique du tout. Mais Spielberg, pour ça, est un as et il donne des illusions. Il fait croire, comme tous les réalisateurs, comme beaucoup de réalisateurs fantastiques américains. Moi, j'adore Jurassic Park, hein, sur la qualité de la réalisation de Spielberg. J'adore George Lucas, j'adore Star Wars. Je reviens pas là-dessus. C'est des films, mais c'est de l'illusion. Non, mais je dis ça parce qu'en fait, un de mes enfants là qui m'a dit il y a peu de temps, il m'a parlé de ça, de cette action, de cette scène. Et je lui ai dit, mais non, le bois, ça conduit pas, c'est pas conducteur. Si tu balances une branche d'arbre sur des trucs. Ah non, c'était sur les fils électriques où il y a les moineaux qui vont, mais si les moineaux y vont et qu'ils ne sont pas électrocutés, il n'y a pas de risque. Enfin, même toi, tu pourrais te mettre faire du trapèze, quoi. Tu vois, tu pourrais te balancer sur les. T'auras rien. Parce que. Mais non, les pigeons, c'est spécial. Non, c'est pareil, ils ont un cœur. Donc, ça aussi, c'est des conneries qu'on raconte aux enfants. C'est pas Steven Spielberg qui dit ça, quoi. Moi aussi, je me rappelle, on me l'avait dit. Mais c'est des bêtises, parce que c'est des filles qui sont isolées. Donc, même si tu mets un bras sur un câble et l'autre sur l'autre, il t'arrivera à rien. Non, parce qu'ils sont isolés. Non, mais c'est vraiment des trucs de gens qui connaissent rien l'électricité, mais bon, en tout cas, je dis pas qu'il faut le faire, hein, faut surtout pas faire ça non plus, hein, ça va peut-être, avec le poids qu'on fait, tout va s'écrouler, quoi. Donc, et il me parle aussi de cette scène en même temps, et je dis, bah oui, mais c'est pas vrai, ça, hein. Les courts-circuits, c'est pas ça, c'est comme les rails, quoi, c'est pas parce que c'est de la bêtise humaine, ça, si tu mets un truc en fer qui touche les deux rails, un bâton de fer qui touche la rail de droite et la rail de gauche, ça va faire un court-circuit. Mais tu délires. Ou alors, tu mets ta main, ta jambe droite, ta jambe gauche, tu délires aussi. C'est pas possible. C'est pas physique, tout ça. Bon, c'est physique si tu mets l'électricité, si tu mets une alimentation dessus, mais c'est si tu mets une alimentation dessus. Bon, bref, donc je lui ai expliqué. Donc, nous sommes ici dans le cycle éternel de l'éternité. Du rêve américain, en fait. De la chute. Comment je vous ai décrit ça ? On part de rien. Hein. Et puis, un événement extraordinaire arrive. Inhabituel. Donc, on pourrait dire le rêve américain quand il y a un happy end. Mais sinon, non. Puis, chute. Mais et c'est ça qui fait qu'en fait on reste toujours dans le même cycle. Alors le truc pour sortir du cycle, c'est pas de se prendre une bourre d'électricité. Non, c'est l'illusion qui nous est proposée. On y croit en fait. ça c'est un exemple qui est... Mais tout le reste, disons que, comme je vous donnais l'exemple, dans la bergerie spatiale, il me semble, je ne sais plus quel était cet exemple, mais... Si on se... Oui, par rapport à la peur. Il ne faut pas avoir... la peur est humaine, bien sûr, mais il y a... faut se dépasser. Mais se dépasser, mais après, il ne faut pas se faire rattraper, quoi, par l'occidentalisation. Tu arrives à te dépasser, il faut surtout pas que tu arrives à te faire rattraper ou que tu redescendes. Parce que bon, c'est pour entrer dans une autre dimension. Mais ça, c'est cette autre dimension. Il y a des personnes qui sont dans ces autres dimensions, qui sont quasiment inatteignables même. Ah ouais, ça doit exister. Hein. Mais d'ailleurs, Steven Spielberg, ça ne m'étonnerait pas qu'il y soit dans une autre dimension. Comme je disais juste avant le morceau Do You Hear Me Now par Bert Jensch, nous sommes dans le cycle éternel. Dans le cycle éternel, donc le début et la fin qui sont en fait, qui font de nous des mortels, on n'arrive pas à se décaler de ça, que l'influence des signes du cinéma, hollywoodien en l'occurrence, nous empêche en gros de sortir de ce cycle, nous empêche d'aller voir plus loin. Et puis Norman Spinrad, dans une de ses nouvelles, sur la route de Mindala, inspecte dans chacun, enfin il inspecte, il fait une étude en fait de l'éternité très, très rapide, et tout ça c'est l'interprétation que j'en donne, dans chacun de nos mondes intérieurs, qui veulent malgré eux se faire contrôler, être conditionnés, sont... en dépit de stimuli, destinés à être comme des choses, des artefacts. Ça, c'est nos mondes intérieurs, qui sont destinés à être des choses, des artefacts, conçus simplement pour exister et plaire. Ainsi, doués de sensibilité, de volonté, et même de motivation. Qui explique cette sensibilité, cette motivation, en plus d'exister et plaire, d'avoir ces attributs, ça explique l'état du monde. L'illusion de création d'un univers façonné sur mesure, façonner mon univers, avec le fait de dire ça, c'est out, c'est pas bon, dans l'objectif d'une apparence éternelle, ouais, si, je veux vivre dans un, je veux être comme ça, alors faut que autour de moi ce soit comme ça. Ça, c'est complètement faux. Ça, c'est nul. C'est un jugement que je donne. Hein. C'est une critique objective. Donc dans l'objectif d'une apparence éternelle, pour nous faire oublier,
mais quoi,
notre immortalité. Ouais, tu vas loin là. Ouais, je vais loin. Ouais, il faut aller loin de toute façon pour ressortir du cycle. De toute façon, on ne sortira pas du cycle. C'est intérieurement chacun qui peut sortir du cycle, mais le cycle tel qu'il est, on ne peut pas le changer. Non, nous, intérieurement, on peut le dépasser. Comme je disais, Steven Spielberg, enfin, lui, il est parti, quoi. Lui, il est ailleurs, je pense. C'est un exemple. George Lucas aussi. Et il y en a plein de mecs. Harrison Ford, il est ailleurs aussi. Enfin, je parle de cinéma. Mais il y en a plein de gens qui sont ailleurs. Et heureusement qu'il y en a. Bon, maintenant, on va s'écouter Mannequin. Parce qu'en fait, on est beaucoup que des mannequins. The Wire. À présent, dans la nouvelle No Future in It de John Brunner, pareil, un auteur de science-fiction, je cite, c'est le tout début de la nouvelle, « Environnés comme nous le sommes aujourd'hui, des sous-produits inhumains, de la recherche humaine, centrales nucléaires, avions de transport à réaction, antibiotiques fabriqués à l'échelle industrielle, on est obligé de se demander si des découvertes plus innocentes ont des implications jusqu'ici négligées. » Fin de citation. Il faut se demander ça. Malgré le modernisme, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se font? Mais oui, il y en a plein. Il y en a plein, mais tant qu'elle ne rapporte pas d'argent, tant qu'il n'y a pas de fric à se faire, voilà, tu as zéro. Là, tu n'as rien. Si ça peut t'aider intérieurement pour voir la vie d'une façon plus clémente, d'avoir une vie plus agréable, non, ça, ils s'en foutent. Alors là, il n'y a pas d'argent à se faire, hein, on s'en fout. Non, par contre, on peut mettre les gens dans la merde et après leur proposer des trucs pour en sortir de la merde. Tu vois ? D'où la psychiatrie, la psychologie, psychiatre, psychologue, c'est un peu, c'est pour ça que ça existe aussi, ça. Donc, et là, j'ai trouvé. Je me suis dit que les réponses sont dans le mouvement. Bon, ça pourrait être bien ça. Ça, c'est négligé parce que le mouvement, il n'y a pas de fric à se faire sur le mouvement. Sauf si tu mets des trucs, des petits camions, des petits machins qui vendent des conneries sur le bord de la route. Ça, ouais. Bah ouais. C'est... Tu peux aller dans un temple magique au Japon ou n'importe où. Et puis à côté, trouver un mec qui, avec son petit chariot en bois, qui vend des trucs pour les touristes, quoi. Et ça, c'est... Tu te dis, attends, je crois que le Japon, ils étaient sortis... Enfin, ils étaient jamais rentrés là-dedans, en fait. Non, ils y sont. Bon, après, il faut se faire du fric, bien sûr. Faut manger. Faut trouver les façons de gagner de l'argent. Après, chacun... C'est honteux de faire ça, mais si tu veux manger du pain, il faut. Peut-être. Il n'y a pas d'autre solution, des fois. Donc, j'ai un exemple, encore, pour ça, pour le... Enfin, un exemple pour le mouvement. Je vous avais déjà dit, j'avais été à Saint-Jacques-de-Compostelle, où on est en Espagne, on n'était pas loin de Saint-Jacques, on avait été voir, comme ça. Et là, dans le camping dans lequel j'étais, j'avais rencontré un randonneur, un mec qui avait fait la route, qui n'était pas religieux du tout. Et il me disait être parti du nord-est de la France. Et là, lui, il m'avait dit, j'avais besoin de changer d'air, de trouver des réponses à mes conflits intérieurs. Bon, un truc comme ça, il m'avait dit. Donc, mais ça, tant qu'il n'y a pas de fric à se faire là-dessus, pourtant, le mec était vachement bien, quoi. C'était pas religieux. Il y avait beaucoup des religieux, des croyants, des pratiquants, quoi. Ça se voyait. On en voyait beaucoup. Et il y avait aussi des gens qui faisaient ça pour la marche, quoi. Parce que, vous savez, c'est guidé, quoi. Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, il est guidé, quoi. Donc c'est plus ou moins facile. Donc c'est. Je sais pas s'il a obtenu des réponses, mais je sais qu'en marchant, des fois, je fais une émission de radio. Et puis je suis bloqué, je sais plus quoi faire. Je m'en vais faire une course en ville, par exemple. Chercher du pain, promener mon chien. Et je reviens, et j'ai la suite. La suite, c'est organisé dans ma tête. Je peux l'écrire sur mon cahier. Bah, la barre joueuse précédente, je sais pas si vous avez fait attention, mais je commence le début, et je dis à un moment, je ne sais plus quoi vous dire. Alors là, j'étais dormir, contre-exemple. Mais là, j'aurais très bien pu aller marcher, et, parce qu'on ne peut pas dormir tout le temps non plus, pour avoir des rêves. Et là, le professeur Schmidby est apparu, pour me donner la suite de l'émission. Voilà, c'est pareil. Le mouvement, ça... Il y a un truc que je me disais quand j'avais la vingtaine. Dès que j'avais, enfin ouais, quand j'avais des petits soucis, je dis, oh, allez, on verra. On verra. Et je marchais. Et on verra. Je trouve que c'est assez c'est représentatif de ce que je suis en train d'expliquer. On verra. Inch'Allah. On verra bien ce qui va nous arriver, quoi.
Shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing,
Donc nous venons d'écouter « These boots are made for walking, and that's what I do ». Nanana. De Nancy, par Nancy Sinatra. J'ai une autre version qui est par Fitzgerald qui est excellente. Mais là, je vous ai passé ça. Pourquoi? Alors, parce que je viens de visionner, visionner la section Anderson de Pierre Schoendorf, réalisateur de Dien Bien Phu. J'ai fait une barge russe là-dessus précédemment, sur L'honneur d'un capitaine aussi, toujours de Pierre Schoendorf qui. Je m'intéresse beaucoup à lui en ce moment, dont je vous ai, avec professeur Schmidby, oui, merci, bien, ouais, donc, dont je vous ai parlé dans les barges russes précédentes. Donc là, la section Anderson, il s'agit d'un documentaire sur une section du Vietnam américaine, US, de 66, ça date. Et vraiment, on se croirait dans Platoon, quoi. Ça, c'est, on croit que c'est des acteurs, vraiment, les mecs, hein. Donc, c'est, ouais, j'ai trouvé ça assez chouette. Et ça vient faire un peu un contre-exemple. Enfin, contre-exemple, et peut-être pas, de la manœuvre hollywoodienne, même si Platoon, à l'époque, n'était pas sorti. Ils étaient vraiment au cœur du truc. Donc, je me trompe peut-être. Mais ouais, c'est vis-à-vis de l'occidentalisation temporelle dont je parle d'Hollywood. Là, c'était pas Hollywood, c'était un documentaire par un Français. Sur une section américaine en Nord-Vietnam, en pleine guerre de Vietnam 66. Et donc, ouais, on croirait vraiment, les mecs, ils ont des regards. Et là, moi, ça m'a rappelé lors de mon voyage à Houston, Texas, j'avais rencontré un ancien sergent de la guerre du Vietnam, Bob. Il s'appelait Bob. Je n'ai jamais connu son nom de famille, mais j'ai bossé dans son jardin, et on a fait pas mal de trucs. Il m'a offert un cigare, tu vois, enfin, c'était sympa. Et Bob, lui, il disait que Platoon, le film de Oliver Stone, ça représentait vraiment la guerre du Vietnam. Oh, à fond, quoi. Il aimait beaucoup ce film, d'après ce qu'il m'a dit. Donc là, on vient d'écouter La Chevauchée des Valkyries de la bande originale de Apocalypse Now. Enfin, ouais. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que dans ce même documentaire, la section Anderson fait partie d'une section ultra-moderne à l'époque qui est une division de cavalerie aéroportée. Avec des haut-parleurs pour prévenir les gens qu'il faut mieux qu'ils se rendent, sinon il va y avoir des bombardements. Et donc là, ça vous rappelle pas un film pour ceux que... Apocalypse Now. Quand le mec, il pose... Bon, ça, il pose pas Wagner dans les trucs, tu vois. Mais c'est la chevauchée des films. C'est la cavalerie, quoi. On entend la trompette, les mecs. Ils jouent de la trompette pour envoyer l'assaut ou rentrer en hélicoptère, quoi. Et là, je me dis, putain, 66, quoi. Donc le réalisateur Pierre Schoendorfer, ils l'ont pompé, en fait. Mais ouais. Parce que il y a la cavalerie aéroportée qui a vraiment existé, on le savait, mais là on a la preuve qu'il y a eu un film là-dessus avant Coppola, ainsi que la musique que je vous ai passée avant, This Boots Are Made for Walking. Il y avait même Good Morning Vietnam, en fait, parce qu'il y a un pôle, à une base américaine, il y avait de la radio qui passait. Donc là, c'est gros, enfin, Good Morning Vietnam, quoi. Les mecs, ça, moi, je savais pas que c'était vraiment vrai, quoi. Bah si, le mec, il disait pas Good Morning Vietnam. Non, il fait pas ça. Mais il passait de la musique, dont These Boots Are Made for Walking. Et là, ce morceau a été retapé par Kubrick dans Full Metal Jacket en 89. Dans ce film, il y a trois films américains qui sont sur le Vietnam, qui sont pompés dessus, pompés, je sais pas, mais c'est possible, parce que c'est 66, c'est à l'époque où les réalisateurs, ils étaient jeunes, et qui regardaient beaucoup de films. Un documentaire par un réalisateur français a inspiré trois des plus grands, en tout cas, Full Metal Jacket et Apocalypse Now. Je trouve ça géant, quoi. Et je vous redis, c'est la section Anderson. Et en plus, c'est génial, quoi. Ça dure même pas une heure, aussi 1h07. Et là, je suis en train de regarder quand les retrouvailles de certains soldats de la section Anderson. Ça a l'air intéressant, je vais le regarder, hein, mais j'ai pas eu le temps encore. Et en fait, ce documentaire, tel que le dit Schoendorfer, ça représente l'Amérique, quoi. Vous savez, comme dans Forrest Gump, quand il dit tous ses compagnons, alors lui, il vient de Minnesota, de machin. Et ben c'est pareil, lui, il fait la présentation, il donne tous les noms, et puis d'où ils viennent. Pareil. Ah ben, encore un truc, quoi. Encore Forrest Gump. C'est vachement pompé. Je me suis dit, mais putain, c'est dingue, quoi. Et ça ne m'étonnerait pas que Zemeckis, le réalisateur de Forrest Gump, il ait vu ce film aussi, quoi. C'est leur époque, à ces gens-là. Enfin, tu vois, 66, ils sont des années 40, des années 50, ils l'ont vu. Puis même, moi, je suis des années 80, je l'ai vu. Tu vois, il n'y a pas de problème, quoi. Et je me suis dit, après... En plus que ce documentaire est... à grosse probabilité influencer ses réalisateurs, même bien que je n'en sache rien, à quatre films, hein, en fait. Good Morning Vietnam, Full Metal Jacket, Apocalypse Now et Forrest Gump. Dans la scène qui se passe, mais ça m'étonnerait pas, parce qu'il y a quand même... en plus, c'est vachement bien filmé par Pierre Schoendorfer, mais en plus de ça, je me dis... Alors, il dit en une interview, quand il revient en France, il dit ce qui m'a étonné, ça m'a pas étonné, mais je trouvais que c'était vraiment une armée très très organisée. Alors, apparemment, il est passé 3 semaines avec cette section, mais là, il peut parler de l'armée. Donc, je trouvais ça peut-être, j'en sais rien, j'étais pas avec lui, hein. Mais bon, c'est pas en suivant 15 bonhommes dans une section que tu peux te faire une idée sur. Je peux te faire une idée, mais est-ce que cette idée est vraiment juste? Bon. Et tu vois, à partir d'une section, il faisait l'armée américaine dans sa totalité. Donc ça, c'est un peu dommage, mais bon, je peux pas critiquer non plus. Hein. Enfin, je critique, mais c'est objectif, quoi. Et je me suis dit, parce que là, j'ai regardé le début, je vous disais des retrouvailles, 22 ans plus tard, hein, en 88, ça a été tourné... Les retrouvailles, justement, je suis juste au début, et il rencontre le capitaine Anderson, justement, le lieutenant Anderson. Et ce qui était intéressant, c'est que le lieutenant Anderson, c'était un black qui sortait de l'équivalent de Saint-Cyr en France, tu vois. Donc, école de polytechnique, quoi, tu vois. Le mec, il avait ça. Et le gars, il... West Point. C'était un black qui ressortait de ça. Et donc ça, c'était vachement intéressant. Avec, on connaît la ségrégation là-bas. Et il remarquait, c'était vachement bien ce qu'il a fait, Schoendorfer, c'est que la solidarité, quand t'es prêt à mourir, entre que tu sois blanc, noir, rouge, jaune, vert, bah, on est tous potes, quoi. Et il donne des exemples qui sont assez foudroyants, quoi. Bref, passons ça. Et donc, il le retrouve. Et je me suis arrêté là. Les présentations. Donc, il a fait West Point. Il a été au Vietnam. Et puis, il est revenu. Et puis là, après, il a arrêté l'armée. Et il a trouvé un boulot. Alors, je sais pas. Hein, c'est d'une interprétation qui est peut-être fausse. À Détroit, vous savez, la ville des voitures aux États-Unis. Et il a trouvé un truc dans General Motors, une super place, super maison, super bagnole. Et là, je me suis dit, vous savez comment je suis, hein, je suis un peu parano là-dessus, je me suis dit, mais en fait, est-ce que, pour justement à partir de ce 66 là, le bon accueil qu'il a donné à l'équipe de télévision, l'équipe de réalisation française, est-ce qu'il n'y avait pas des secrets, quoi? Peut-être. Peut-être pas, parce que je me plante, mais bon, je suis animateur radio, il faut bien que je donne un peu de substance, quoi. Et qu'ensuite, eh ben, le mec, il a fait un bon boulot avec les journalistes français pour donner une bonne image de l'armée américaine qui était là dans son bon droit, même si Schoendorfer n'est pas aveugle. Il sait bien que c'est pas bien de faire ça, parce que notamment l'armée française y était 10 ans plus tôt avec l'Indochine, c'était Vietnam. Et lui, il a fait la guerre en 54 à Dien Bien Phu, il y était. Le réalisateur, ouais, il y était vraiment, donc c'est pour ça qu'il a pu se permettre de faire un film sur Dien Bien Phu. Et il a fait un autre film que j'ai pas regardé encore, sur je sais plus, la brigade 317. Et donc le boulot qu'il a pu trouver après, à se demander si c'est pas... Ben voilà, il a donné un coup de main à l'équipe de journalistes, il a donné une bonne image des États-Unis, au point que le réalisateur, Schoendorfer, ils disent que l'armée américaine, à partir d'une section, à la section Anderson, ça s'est bien passé, à partir de là, ils puissent dire que, oh ben non, c'est toute l'armée est géniale, et à partir de là, ben, le mec... Il trouve des boulots partout, quoi. Et puis, il peut rouler en super bagnole et avoir une belle maison, une belle femme et des beaux enfants, etc. Mais bon, c'est juste une supposition qui ne m'étonnerait pas trop, vu les émissions que je fais. Bon, mais j'en sais rien, tu vois. Et en plus... Ce documentaire a reçu en 1968 l'Oscar. Donc ça, c'est américain. C'est le César. Hein, c'est César. César, c'est en France. L'Oscar du meilleur documentaire en 1968. Ça fait... Bon, c'est vrai qu'il est génial. Et ça fait beaucoup de coïncidences, peut-être. Enfin, en même temps... Parce qu'il y a plein de trucs qui sont géniaux qui sont pas récompensés aux Oscars, quoi. Tu vois, bah, The Big Lebowski, ça n'a pas été récompensé aux Oscars. Et pourtant, là, je dois dire, mais pourquoi? Parce que ça faisait parler de drogue un petit peu, du mec qui fout rien. C'est pas ce genre de choses que l'Amérique veut mettre en avant, quoi, dans The Big Lebowski. Pourtant, l'interprétation de l'acteur Jeff Bridges était fameuse. Oui, je suis d'accord. Bien, bien joué, Johnny Tivek. Je suis complètement d'accord avec vous. J'avais d'ailleurs rencontré Pierre Schoendorfer. Oui, je l'ai rencontré. Il est mort maintenant, il est sur une dizaine d'années. Oui, il était... Oui, c'était un homme... oui, bourré... bourré de dynamite, quoi. Il était... Une aura grandiose. Ah oui.
me permettre de rajouter quelque chose. Dans ce documentaire que j'ai vu, forcément aussi, bien sûr, la section Anderson, il y a un jeune qui est jeune, qui rigole et qui a fond dedans, qui est beaucoup. Et il y a un chanteur de blues qui vient d'Alabama, un black, comme vous dites, une personne noire. Mais c'est ce jeune plein d'énergie, vraiment. Et bien, vous savez à qui il me fait penser ? Il me fait penser au surfeur de Apocalypse Now, le même genre de bonhomme, le même genre de soldat, qui est là, mais qui est là, pas la fleur au fusil, mais non, mais le, qui est là, qui va s'en sortir. D'ailleurs, il s'en sort. On le voit dans Réminiscence, oui, vous verrez, oui. C'est ça qui est fameux, n'est-ce pas? C'est, encore une fois, l'influence peut-être de ce documentaire français de 66 qui a été récompensé, qui a gagné un Oscar en 1968, qui a peut-être et même sûrement inspiré Francis Ford Coppola. Oui. Et par la même Stanley Kubrick. Yeah. Et pourquoi pas le réalisateur de Good Morning Vietnam. Yeah. Ainsi que Robert Zemeckis, Forrest Gump. Vous avez raison, Johnny Depp. Vous avez raison. La force est avec vous. The force may be with you. Yeah. Oui, c'est le moment de le dire. Oui, c'est le festival de Cannes en ce moment. Nous sommes donc, fin mai. Pas... The force. Yeah. Oui, je me permets encore une fois. Je me suis permis de mettre ce morceau, Dao Lung, composé par Francis Ford Coppola et sa sœur, Coppola. Oui, eh bien, le documentaire, la section Anderson, se situe au même endroit que le nom de ce morceau, Dao Lung. Alors, peut-être est-ce en réalité... Comment c'est ce morceau ? Dao Lung, oui. C'est le premier de la phase B. Bien, peut-être que, oui, enfin, je pense vraiment que, comme vous disiez, l'inspiration de Schoendorfer, oui, mais cette cavalerie aéroportée, n'est-ce pas, exerçait là-bas. Donc, ça, encore une fois, est une histoire véridique qui a vraiment peut-être emporté l'Amérique, Francis Ford Coppola, mais je pense vraiment que vous avez raison. Que Schoendorfer a inspiré. Car nous retrouvons les mêmes endroits, des faits qui ont inspiré. C'est vrai, très inspirant, n'est-ce pas? L'infanterie aéroportée américaine, le plus moderne qui soit, transporter les soldats par hélicoptère. On ne peut pas leur enlever ça, n'est-ce pas? Non, non. Il y en a qui sont morts quand même. Yes.
Give me a danger, my little stranger, 'cause I feel you and you feel me. Give me the wave, my little DJ, 'cause you and me are on the way. In EJet FM. La barre, j'ai la fortune russe.